France Inter.
Quand on demande à l'artiste plasticienne, éleveuse et écrivaine vivant dans le massif des Vosges à 750 mètres d'altitude dans une ferme dominant la vallée de l'Apoutroie depuis plus de 60 ans, Claudie Hunzinger, quelle est sa nationalité ? Elle répond « de la montagne ». Auteure d'une fiction romanesque décentrée mettant au même niveau l'ensemble du vivant, elle a notamment publié « Bambois », »,« La langue des oiseaux », »,« Les grands cerfs » couronné par le prix Décembre, « Un chien à ma table » couronné par le prix Fémina ou encore « Il neige sur le pianiste ». L'ancienne professeure d'art plastique semble avoir eu de multiples vies. Études à Paris, enseignement à Colmar, elle démissionne après quelques années de l'éducation nationale afin de donner libre cours à sa poésie sauvage. Ne souffrant ni l'autorité ni les injonctions et étant parfaitement indifférente au confort, elle s'émerveille de la nature avec laquelle elle fusionne et prône la fraternité inter-espèces. Son travail de plasticienne s'est développé autour du végétal et elle se qualifie d'ailleurs plus volontiers de chercheuse et d'exploratrice que d'artiste. Cela ne l'a pas empêchée de partager ses enchantements dans de nombreuses expositions et d'avoir littéralement donné la parole aux feuilles des plantes qu'elle fréquente. L'écrivain Fabrice Lardreau l'interroge sur sa vie et ses goûts dans l'ouvrage « Forêt d'écriture » qui vient de paraître aux éditions Artaud, livre qui se conclut par une sélection de recommandations de lecture nous faisant regretter que le temps soit si rare. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Claudie Hunzinger.
Bonsoir Eva.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmée ?
Alors, je ne voyage pas souvent, pas souvent en train non plus. Et le voyage que j'ai fait, là, pour venir de Colmar à Paris, a été... J'adore regarder par la vitre, plutôt que de lire. Et c'était à la fin de l'automne, c'était un très très beau jour. En général, quand je prends le train comme ça, je m'imagine de l'autre côté, à galoper, à cheval. Et je cours à côté du train et je saute au-dessus des forêts, je bondis au-dessus des rivières, je vais aussi vite que possible pour pas me faire distancier, tout en regardant les couleurs de cet aujourd'hui. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui et qui a été une grande surprise dans cette cavalcade, c'est que j'ai croisé deux migrations de grues. Deux grands V dans le ciel. Et sans doute des grues qui partaient, absolument d'où je venais, sans doute au bord du Rhin. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux.
Alors là, c'était pas du tout prévu, mais est-ce que vous pouvez nous parler des cigognes ? Parce que, on dit que les cigognes sont alsaciennes, mais moi j'en ai vu en Tunisie et j'ai été très étonnée du bruit qu'elles faisaient, elles claquent du bec.
Oui, je ne les connais pas vraiment, les cigognes. Ah. Elles sont dans la plaine. J'habite la montagne.
Pardonnez-moi.
Alors ce sont plutôt des hérons qui viennent poser au bord de l'étang.
Et quels sont leurs comportements ?
Leur comportement est de prédateur. Ah. Ils foncent près de l'étang et ils attrapent ce qu'ils trouvent.
D'accord. On ne peut pas les approcher ?
Non, c'est normal.
Vous vivez depuis 60 ans avec le même homme, votre mari Francis, dans la ferme que nous allons évoquer ce soir. Alors moi, la question que je me posais tout le temps en préparant cette émission, c'est ne vous disputez-vous jamais ?
C'est assez rare. C'est assez rare, c'est-à-dire qu'on a pris peut-être nos précautions.
Ah ben alors comment est-ce qu'on fait pour prendre
alors, nous habitons chacun un étage.
Ah oui.
Voilà. Nous avons chacun notre lit et nos rêves. Nous avons chacun aussi notre bibliothèque. Et ça c'est très important. Il n'est pas question que j'emprunte à Francis, mon mari, un livre plus de 2 ou 3 jours, il lui manquerait.
C'est vrai ?
Et quand nous aimons vraiment un livre, nous avons chacun notre édition. Elle se trouve en 2 exemplaires dans une ferme dans la montagne.
Vous dites que les livres sont les autres maisons qui sont dans vos maisons.
Oui, c'est vrai. Elles ont quelque chose de comme ça, les livres. Si vous en prenez un, si vous le posez sur la table comme ça, ouvert, appuyé sur ces 2 tranches, c'est déjà une cabane.
C'est vrai. Vous menez sur place ce que vous qualifiée d'exploration inépuisable. Quelle est la dernière chose que vous avez découverte ?
La dernière chose que j'ai découverte, c'est cet été. C'est une variété d'insectes. Une variété d'insectes, je pense, venue avec le réchauffement climatique. Sans doute un réfugié climatique, puisqu'il semble venir d'Iran. Je suis allée voir, il venait d'Iran. Et ce sont des sortes de petites abeilles, aux très longues pattes, aux pattes comme des filins dorés, et des petites ailes brunes. Eh bien, un centimètre qui les sépare, qui joint leur thorax et leur abdomen, donc extrêmement fragiles et aériennes et féeriques, et qui sont venues construire, il y en a une qui est venue construire, dans ma bibliothèque, un peu à l'ombre, une sorte d'étui, fabriqué de boue. Et je l'ai vu arriver avec des boules de boue entre les pattes. D'abord, j'ai cru que c'était des œufs d'escargot, pas du tout. Des boules de boue. Et elles construisent des sortes d'abris anti-aériens ou anti-nucléaires. Et pendant toute la saison, et parfois elles me frôlent. Et leurs petites ailes brunes me touchent la joue et ça cliquette. Aucune agressivité. Aucune.
C'est fabuleux. Vous dites que vous êtes née toute crachée et que vous pensez que les poètes sont des anomalies de naissance. Pourquoi ?
Ah, j'ai écrit ça.
Oui, dans une interview que vous avez donnée au Monde.
Ah oui.
Les poètes sont des anomalies de naissance.
Ah oui, peut-être bien. Peut-être bien. En tout cas, je suis née toute crachée comme je suis. Je pense que réfractaire, aimant faire exactement ce qu'on me défend. Bondissant dans ce qu'on me défend.
Quelle est la dernière fois que vous avez commis une effraction dans ce qu'on vous défendait ?
Peut-être juste avant d'entrer ici, mais je ne dirai pas laquelle.
Ah ! Je vais regarder après l'émission.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Je suis avec l'émerveillante artiste plasticienne et écrivaine Claudie Hunzinger et on va parler ce soir de l'ouvrage Forêt d'écriture, ce livre d'entretien mené par l'écrivain Fabrice Lardereau. Alors, on remarque que la couverture est marron bois. Est-ce que ça a été voulu, ça ?
Ah, c'est la surprise. C'est bien réussi.
Ah oui. Eh ben, c'est très joli. Il y a une typographie, un dessin bleu clin dessus avec un renard. On va parler de renard, d'ailleurs, ce soir à plusieurs moments, mais est-ce que vous pouvez nous parler de celui que vous avez fréquenté ?
Ce renard que j'ai fréquenté est arrivé au moment où j'avais décidé d'écrire un nouveau roman, mais j'étais partie tout à fait sur autre chose. Et un soir, ce très jeune renard, un renardeau, s'est présenté à ma porte, en même temps exactement que je recevais le mail dans ma boîte à mail, d'un pianiste que je ne connaissais pas et qui me demandait s'il pouvait venir nous rendre visite. Alors à partir de ce moment-là, c'est très étrange, mais si on fait un peu attention aux signes, si on aime les rapprochements, les contiguïtés, les hasards objectifs, les choses tout à coup absolument incroyables qui se présentent ensemble, moi je sursaute. Et je me dis, tiens, là, il y a quelque chose d'absolument incroyable qui se produit, un renard à ma porte, et le mail d'un musicien, d'un très bon musicien, que je ne connais pas et qui aimerait bien me rencontrer. Là, il y a quelque chose qui commence.
Et vous les avez mis tous les deux dans un roman.
Et il m'annonçait, la boîte du renard, ce soir-là, avait fait le tour de la maison. Il aboyait toutes les 3 secondes, petit aboi très sec, et dessinant une sorte de cercle magique. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se produit. L'air se charge d'électricité, positive et négative. Il y a quelque chose qui se met absolument à bourdonner, qui se met en place et qui vous annonce qu'on entre dans un temps spécial, celui d'un roman. Et j'avais tout à fait autre chose en tête. Et là, 2 personnages, absolument inattendus, se sont présentés. Et c'était d'un infini romanesque.
J'aimerais vous écouter sans plus poser aucune question. Parce que c'est trop merveilleux. Vers 30 ans, d'ailleurs, vous avez une révélation en lisant « Des renards vivants » de Simone Jacquemart, qui fut une amie.
Oui.
Et elle vivait avec des renards.
Elle vivait avec des renards. Elle avait eu le prix Renaudot. Et avec ce prix, elle avait acheté une propriété qu'elle avait, une grande propriété qu'elle avait entièrement bouclée de grillage. Parce que les renards qu'elle élevait seraient vite sortis et auraient vite été la proie des chasseurs. Donc elle les invitait chez elle, elle les retenait chez elle et les observait. Et de très près. Et elle racontait des choses absolument bouleversantes sur le fait que parfois elle partait 8 jours à Paris. C'était dans la Sarthe, sa propriété. Et quand elle revenait, les renards pleuraient d'émotion. C'est fou. Et les renards sont capables de grandes effusions sentimentales.
Ah oui ?
Oui. Et de cruauté, ne pas oublier la cruauté.
Bien évidemment, parce que justement, ce qui est très beau dans tout ce que vous racontez, c'est que vous vous émerveillez de tout ce qui vous entoure, de la nature, des apparitions, des végétaux, de la faune. Mais vous dites aussi que vous êtes très consciente de la violence de la nature. Et d'ailleurs, vous utilisez un remède, c'est la cuisson. Le cru et le cuit.
Oui.
Pour vous protéger.
Oui. La nature, c'est prédation sur prédation. C'est une jungle. Pour en venir à la cuisson, c'est un tout petit peu différent, mais pas si loin. Je me suis aperçue quand j'ai commencé à vouloir explorer les différentes capacités qu'ont les plantes à se transformer en papier, que ces papiers étaient couverts de cygnes, et que pour en obtenir justement du papier, il fallait que je passe par la cuisson. Et je m'étais demandé pendant un certain temps, pourquoi est-ce que je cuis la nature? Pourquoi est-ce que j'ai la coupe menue? Pourquoi je la mets dans des chaudrons? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est en lisant le cuit et le cru de Lévi-Strauss que j'ai découvert que les Indiens cuisaient la nature pour mettre à distance sa violence et le danger qu'elle pouvait représenter. Et pour moi, en tant que femme, née d'une femme et vivant dans la nature, j'étais tout à fait consciente qu'elle était une énorme présence autour de moi qui ne demandait qu'à soit me faire enfanter, comme c'est son but principal, et que également me bouffer, me digérer, me transformer en nature, et que je n'avais qu'un seul moyen. Pour ça, c'était la cuisson de la nature. Donc, la faire passer par les chaudrons. Je ne sais pas pourquoi je ne pouvais pas en rester simplement à quelque chose de cru, de séché, que j'aurais fait avec ce qui m'entoure comme œuvre plastique. Et pourquoi il fallait que je passe par la cuisson de la nature. C'est parce que c'est une transformation en même temps. Et c'est une mise à distance. Et du coup, je me suis dit également, mais quand j'écris un roman, c'est la même chose. J'ai eu une mère magnifique.
Justement, j'y viens, vous dites que vous l'avez fait cuire, cette mère.
Oui, j'ai fait cuire ma mère, j'ai fait passer par des chaudrons. Et les chaudrons, là, dans ce cas-là, c'est l'écriture.
Vous lui avez consacré un roman sur une de ses histoires d'amour avec une femme ?
Oui, deux romans sur ses histoires d'amour avec des femmes. Mais en même temps, c'était quelqu'un de splendide et d'un très fort magnétisme, cette mère. Et j'ai eu la chance, très jeune, de n'être pas entièrement absorbée par elle, de ne pas l'adorer à fond. Et d'ailleurs, pas non plus de la haïr. J'ai évité tout ça. Et je pense que c'est parce que très jeune, je me suis mise à écrire. Cette mère habitait une bibliothèque. Ma mère, c'était une bibliothèque. J'ai été élevée par une bibliothèque. Alors comment faire pour se sauver de ça, pour rester tout de même un peu à distance? C'est d'écrire aussi, et de parler de cette mère. L'écriture, je pense, l'écriture est une cuisson. L'écriture est une mise à distance. Et de même que de la nature, je me méfie, j'écris contre la nature. Je travaille contre la nature, mais c'est pas si simple. Parce qu'on travaille en même temps ensemble, la nature et moi, complètement ensemble. Et je ne saurais pas dire où s'arrête le rôle de chacune et laquelle des deux bouffe l'autre.
Vous vous méfiez plus des êtres humains que de
les
la nature ?
Les êtres humains, beaucoup, beaucoup plus. Je les trouve beaucoup plus cruels. Ce qui se passe, la prédation dans la nature est quelque chose justement d'extrêmement naturel et qui ne me révolte pas.
En parlant des habitations, et vous dites que les maisons que vous avez habitées sont comme des êtres protecteurs dans votre vie.
Oui. Je me suis aussi aperçue de cela en conversant avec Fabrice Lardereau, qui me posait des questions sur les maisons. Quels ont été les rôles des maisons? Et j'ai remarqué qu'elles étaient des personnages tout puissants. Des personnages un peu dans l'ombre, mais tellement elles-mêmes enracinées dans la montagne qu'elles m'ont appris chacune l'ici et le maintenant, l'immobilité, l'approfondissement. Et en même temps, l'enveloppement et l'abri.
Vous avez toujours été indifférente au confort. Est-ce que votre maison Bambois a subi quelques aménagements pour être plus agréable à vivre?
Oui.
En 60 ans.
Oui, tout à fait. Oui, je n'en suis pas restée là. Non, pas d'eau courante, pas d'eau froide ni chaude, pas de douche, pas de gaz, pas de toilette à l'intérieur, non. Et c'était magnifique, magnifique quand on a 25 ans, 30 ans. Ça participe de la, ça participe de l'espèce de sublimité qu'on a quand on vit dans un lieu sauvage et dans une montagne, d'être en contact direct, aussi bien avec les éléments dehors, le froid, la neige, que l'énorme fenaison, les océans de foin l'été. Mais oui, le confort, j'ai appris très jeune à mépriser le confort. Même si maintenant j'y reviens, je suis un peu plus vieille.
Dans ses impressions et souvenirs, Georges Sand écrit « Il y a des heures où je m'échappe de moi, où je vis dans une plante, où je me sens herbe, oiseau, cime d'arbre, nuage, eau courante, horizon, couleur, forme et sensations changeantes, mobiles, indéfinies. Des heures où je cours, où je vole, où je nage, où je bois la rosée, où je m'épanouis au soleil, où je dors sous les feuilles, où je plane avec les alouettes, où je rampe avec les lézards, où je brille dans les étoiles et les vers luisants, où je vis enfin dans tout ce qui est le milieu d'un développement qui est comme une dilatation de mon être. »
Marie-Jeanne Durie sur l'ORTF en 56 qui cite Georges Sand. Et ce n'est pas anodin si j'ai voulu qu'on parle de Georges Sand avec vous, Claudie Hunzinger, puisque dans les maisons qui ont beaucoup compté pour vous, il y avait la maison familiale bourguignonne de Ségrois où vous passiez vos étés, un repère de beauté sans aucun confort, pas d'eau courante et avec des vieilles éditions de Georges Sand et de Jules Verne sur les tables de nuit. Et ce qui frappe, c'est que c'est lié chez vous à des souvenirs enchantés, mais votre sœur, interrogée plus tard, vous a rappelé qu'à l'époque, vous ne mangiez pas assez.
Ah, c'est pas assez du tout, non, c'est pas ça. Les parents nous lâchaient à Ségrois, l'été, les grandes vacances, tous les enfants, et les enfants avec les amis de leurs amis. Donc, une bande de toute une jeunesse. Et je demandais à ma sœur, mais comment faisions-nous? Comment on mangeait? Elle m'a répondu, mais on ne mangeait pas. C'est-à-dire que ça n'avait aucune importance.
Petite, vous étiez une enfant terrible. Vous avez été scolarisée dans un établissement religieux et vous dites que vous n'étiez pas fréquentable. Et sur vos carnets scolaires, on pouvait lire « Griffes et morts, ses petits camarades, brisent leur chapelet, tirent la langue à leur maman dans la rue. » Et vous, vous commentez « Je n'étais pas du bord des humains ».
Oui, quelque chose comme ça, je pense. Je pense que petite à la maison, j'ai commencé comme ça très jeune. Je suis née comme ça. À mon avis, je suis née comme ça. C'est-à-dire réfractaire à toute autorité, à toute injonction. et que si on me demandait quelque chose, mon plus grand plaisir était de faire le contraire.
Et ça ne vous a pas quitté ?
Non, ça ne m'a pas tellement quitté. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en effet, à la maison, j'étais terrible. Mais dès que je sortais, je griffais peut-être mes frères et sœurs ou mes amis. Mais dès que je sortais dans le jardin, j'embrassais les fleurs.
Et vous leur parliez ?
Et je leur parlais, oui.
C'est quand vous avez été mise dans un internat à 11 ans au lycée climatique de Briançon que vous avez découvert les couleurs de la végétation, la sensation de l'infini, à reconnaître les arbres et les plantes ?
À Briançon, j'ai surtout découvert ce qu'est véritablement la solitude, cette fois-ci sans famille. D'ailleurs, Sans famille est un de mes livres préférés. Ça commence « Je suis un enfant trouvé ».
Victor Malo.
Oui. Donc, à Briançon, j'ai surtout rencontré la solitude. Les grands dortoirs vides, le samedi-dimanche, parce que mes camarades repartaient à la maison. Et je n'étais pas seule à Briançon, j'étais avec mon petit frère. Mon frère aîné, plutôt d'un an. Et j'ai découvert beaucoup, beaucoup de choses à Briançon.
L'écriture notamment.
D'abord les fleurs, des fleurs inconnues, tout à fait inconnues, des champs de narcisses, et puis le bleu des gentianes, à ce bleu vert incroyable foncé, la nuit nocturne en même temps, des gentianes, c'est un peu vert lézard en même temps. Et oui, je leur parlais.
Et qu'est-ce que vous leur disiez ?
Oh, je leur racontais ce qui se passait. Je leur demandais, je pense, je leur disais que je les aimais, que je les trouvais belles.
Elles vous répondaient ?
Oh, elles répondent par une intensité de couleur plus grande. Ou parce que le vent arrive et qu'elles bougent un peu la tête. Des choses comme ça. Mais l'écriture en même temps. J'ai aussi découvert l'écriture en pensionnat. C'était... Ma mère était loin, je l'adorais, je la savais dans sa bibliothèque. Je savais qu'elle m'avait bazardée là, moi je dis même déportée là, à Briançon.
Ça vous rendait triste ?
Non, je ne me rendais compte de rien, c'était tout naturel. Je ne mettais pas en question ceci. Et j'ai découvert que le moyen de la rejoindre, en tout cas de l'intéresser de loin, peut-être de l'entortiller, c'était de lui dire que j'étais en train d'écrire un roman, en sixième, et que ça allait l'intéresser, qu'elle allait peut-être que par là, elle se demanderait ce que je faisais là-bas, si loin.
Inspirée par Hector Malo.
Oui. Il y avait une histoire de bohémien, là.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Lorsque j'allais me promener dans la colline, j'y allais à la suite, et je dis bien à la suite, comme traîné par eux, à la suite de souvenirs de mes lectures et de souvenirs littéraires. Lorsque pendant la semaine et pendant tout le temps de mon travail, j'avais lu, je me reporte par exemple, je vais parler du livre qui m'a été mon compagnon pendant très longtemps, l'Odyssée. Je lisais l'Odyssée. Évidemment, il n'y a pas la mer à Manosque. Mais il y avait les collines. Et au-delà de ces collines, un horizon suffisamment bleu pour que je puisse imaginer, étant enfant, qu'au-delà de ces collines se trouvait la mer, comme elle s'y trouve en effet, mais on ne la voit pas. J'allais par conséquent à la recherche des paysages dans lesquels se passaient les drames des personnages qui m'avaient intéressé pendant le courant de la semaine ou pendant le courant du mois. Lorsque je marchais dans un verger d'olivier, Pan était là, Apollon surgissait des herbes. Nausicaa était cachée dans un chemin en train de remonter son linge des lavoirs.
Je vois que cet extrait de Jean Giono sur France Culture en 63 vous parle, Claudie Hunzinger.
Oui, tout à fait.
Je crois que c'est sous son influence que votre mari a passé un diplôme de berger.
Oui. La mère de Francis allait au Contadour. Dans les années 30.
Donc les conférences de Jean Giono.
Les conférences de Jean Giono en plein air sur le plateau. et toute la collection des écrits du Contadour, Francis l'a dans sa bibliothèque, et en effet, il a suivi, comme ça dans les livres, il suivait les grands troupeaux, enfin pas le grand troupeau, mais les autres troupeaux.
Alors en parlant de troupeaux...
Oui, c'était quelqu'un, pour aussi bien pour Francis que pour moi, de très très important. Je lui avais envoyé, dans les années 50, à Jean Giono, une petite nouvelle que j'avais écrite et illustrée, en me traitant peut-être un peu de folle d'oser lui écrire. Il lui envoyait ceci, et il m'avait répondu, « Mademoiselle, vous n'êtes pas folle du tout. » Voilà. Oui, c'était quelqu'un, Jean Giono.
Vous avez parlé de troupeau, et quand vous avez trouvé Bambois, dont vous racontez l'installation dans Bambois, la vie verte, dans votre premier livre en 73, vous trouvez Bambois, cette maison, en 65, vous avez 25 ans, et vous vous y installez en janvier 66, et l'expérience est brutale, puisqu'il y a une centaine de brebis. Oui. La maison est pourrie d'humidité, et il y a un incroyable corps à corps avec les éléments et avec la réalité.
Oui. Tout à fait, c'est ça. Nous avons été en pleine immaturité, comme dirait Gombrowicz. En pleine immaturité, on s'est lancé là-dedans. On s'est lancé sans rien savoir, en toute inconscience, entièrement mu par le désir d'aller vivre quelque chose d'exceptionnel et de difficile, nous le savions. Mais pas difficile à ce point-là, quand même. Les hivers étaient trop très longs, nous n'avions pas assez de foin, épidémie, un peu de famine pour les brebis, c'était presque un peu horrible parfois, très difficile, très dur, et le vent et le froid, la maison pourrie, tout ça. Mais c'était, je pense, en même temps entièrement soutenu par une sorte d'exaltation et de la splendeur des difficultés.
Mais vous avez toujours trouvé de la splendeur dans les difficultés.
Oui, parce que les difficultés, quand elles arrivent, elles vous demandent immédiatement de vous resserrer en une sorte de boule de présence aux aguets de tout. Donc c'est une façon de vivre intensément et peut-être au cube. Oui.
Que mangiez-vous lors de votre installation? Pardon pour cette question très prosaïque, mais ça
m'intéresse.
Comment
vivions-nous?
Que mangiez-vous?
Ah, des raviolis en boîte.
Ah oui,
oui.
Mais vous alliez faire les courses
ça... de temps en temps, voilà, avec en rassemblant les consignes des bouteilles.
Ces poudres et ces aérosols sont maintenant utilisés partout, dans les fermes, les jardins, les forêts et les maisons. Ces substances non sélectives tuent tous les insectes, nuisibles ou non, font taire le chant des oiseaux, recouvrent les feuilles d'une pellicule mortelle et persistent dans les sols. Et tout ceci pour se débarrasser de quelques feuilles ou insectes. Comment peut-on croire que l'on puisse déverser tant de poison sur Terre sans y compromettre la vie? On ne devrait pas les appeler insecticides, mais plutôt biocides.
Claudie Hunzinger, vous avez lu très jeune Printemps silencieux et cette mer qui nous entoure de la biologiste marine et militante écologiste américaine Rachel Carson, qu'on entend là en 63. Quelle influence a-t-elle eu sur vous?
Eh bien... Elle n'était pas la seule. Il y avait dans les années 60, il y avait déjà aussi Dumont. Dumont et puis au début des années 60, Soreau. L'édition bilingue, une ancienne édition que j'avais déjà en main. Et puis, il y avait également Jack London. Voilà, il y avait Kerouac aussi, c'était une manière. Voilà, il y avait toute cette littérature. Mais au moment même où nous nous sommes installés à Bambois, j'ai aperçu qu'il y avait une sorte de concomitance, de parallélisme, entre les livres qui sortaient dans les librairies à ce moment-là, qui étaient les livres sur le Tao, des poètes chinois, où l'on parlait de cabanes, où l'on parlait de cabanes qui ne contenaient rien et qui contenait tout. Voilà, c'est une sorte de mouvement, je pense, une sorte d'induction comme les sources. On était porté par une montée comme ça de sources dans la montagne et qui coïncidait également avec des parutions dans les librairies sur ce genre de vie dans un ermitage. Donc on était tout à fait à l'aise.
Là, vous venez de parler de poésie chinoise. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot d'un poète que j'ai découvert grâce à vous, un poète chinois du 8e siècle, Du Fu?
Ah, oui. Oui, oui. Je pense que les éditions, c'est plus exactement leur nom, c'est pas Mountbatten, c'est quelque chose comme ça, on traduit en bilingue des poètes chinois. Et j'adore ça parce que ça me met immédiatement en contact avec la neige, par exemple, ou avec deux ermites qui n'ont qu'une seule paire de sandales. Ça peut nous arriver. Et avec la solitude et avec la contemplation.
Quand vous parlez d'ermite, je pense au fait que vous soyez lancé dans le tissage et la teinture grâce au conseil d'un ermite.
Tout à fait. Oui, tout à fait.
Et vous utilisez des plantes pour les teintures.
Aussi. On a vécu dans notre montagne une ferme qui avait 20 hectares autour d'elle, que nous avons pu acheter grâce à la SAFER et qui était située la plus haute, la plus difficile à mener, des friches, des forêts très raides, verticales presque, à la lisière de la forêt. Mais enfin, on a pu l'acheter et ça nous a absolument ravis parce qu'elle était, il n'y avait pas encore eu de chemin carrossable qui avait été tracé. Donc voilà, elle était restée intacte depuis le 18e, intacte.
Et vous aimez vraiment la difficulté, puisque quand vous avez enfin maîtrisé parfaitement l'art du tissage, vous avez arrêté et vous vouliez à nouveau vous remettre en danger.
Oui, oui, parce qu'au fond, c'est l'aventure. C'est l'aventure qui nous a toujours plu. Le nouveau, l'inconnu. Allez, avancez, on a trouvé quelque chose, très bien. On ne va pas continuer à marcher dans les brisées de ce qu'on a trouvé. On va continuer à déchiffrer et à défricher.
Et d'ailleurs, vous déchiffrez la parole des feuilles. J'ai dit ça tout à l'heure en introduction, mais est-ce que vous pouvez raconter comment vous en êtes venu à leur donner la parole, mais à l'écrit?
À qui?
Aux feuilles.
Au végétal.
Oui.
À tout le végétal. Oui. Aux plantes. Aussi bien les feuilles des arbres que les écorces des arbres. Les mousses. Les graminées. Les graminées, il y en a. Les mousses, c'est pareil, il y en a. Et quand j'ai découvert que ça, c'était début, fin des années 70, début 80, j'étais tombée sur une revue, Kraft, américaine, qui disait qu'en Europe, en France, au 18e siècle, on manquait de chiffons pour faire du papier. Et puis qu'ils avaient essayé pendant un certain moment à fabriquer, à partir de la cellulose, des plantes, des orties. C'est connu, les orties, elles ont une sorte de soie autour d'elles, autour des tiges. Et qu'on pouvait fabriquer du papier. Et à ce moment-là, il y avait eu un ou deux petits recueils de poèmes qui avaient été publiés et imprimés sur du papier d'ortie. Mais très vite, on a découvert comment utiliser la cellulose des arbres en observant les guêpes qui les grattaient, qui faisaient des nids en papier gris. Donc, en France, pendant très peu de temps, très court moment, on a imprimé sur du papier des plantes sauvages, les ronces, les orties, surtout les ronces et les orties, je crois. Et la recherche s'est arrêtée là. Et je l'ai reprise, j'ai repris cette recherche-là, donc 200 ans plus tard, et presque au point zéro où elle était. Et ça, ça m'a absolument, absolument passionnée, parce que j'ai trouvé une sorte de un pont, quelque chose qui réunissait le sauvage de la nature, des plantes brutes, et cette substance absolument hautement intellectuelle ou poétique qu'est le papier. Et dire que je pouvais, à partir du sauvage, atterrir au support des poèmes, au support de l'écriture, au support de la pensée, à partir d'une pensée, celle du sauvage, rejoindre la pensée humaine, c'est quelque chose qui m'a passionnée pendant 20 ans. Et j'ai mené donc toute une recherche à partir des papiers des plantes, m'apercevant que c'était quelque chose de très scientifique, que je pouvais établir quels étaient les signes, parce qu'il y a toute une linguistique en même temps qui s'est développée, enfin, que j'ai en quelque sorte mise au jour, à la lumière, découverte. C'est que le papier d'une certaine variété de graminées, comme les Deschampsia, me donnait une texture couverte de signes qui étaient ceux des Deschampsia. On pouvait absolument les reconnaître. Et de même qu'un peu plus loin, une graminée Agrostis tenuis allait me donner tout à fait autre chose. Et pareil pour les mousses, et pareil pour les prêles. C'était à la fois extrêmement scientifique et très très poétique. Et là, quand je suis entre ces deux pôles-là, moi, je suis aux anges.
Different names. My good friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the gypsy fairy queen. I follow the gypsy fairy queen. She walks the length and breadth of England, singing a song, using a wand to help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. Follow the gypsy fairy queen. We exist in the twilight in between. She bears a blackthorn staff to help her in her walking. I only listen to her sing, but I never hear her talking anymore. Though once she did, though once she did. Follow, follow, follow my gypsy fairy queen. We exist in the twilight in between. And I follow, follow, my gypsy fairy queen. We exist, exist, exist in the country in between. Me and my gypsy queen.
Marianne Faithfull, The Gypsy Fairy Queen, featuring Nick Cave. C'est votre choix musical, Claudie Hunzinger.
Oui, 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 c'est mon choix musical. Marianne Faithfull et sa voix très grave. Nick Cave et sa voix très grave. Ses voix presque de grotte d'ombre, surgit comme ça, des profondeurs. Ça m'envoûte.
Je vous ai demandé une découverte pour les auditeurs et vous avez choisi Monte Verita à Ascona, au bord du lac Majeur.
Ah oui, ah oui, oui, tout à fait. Oui, oui, c'est une découverte. C'est le thème de mon prochain roman. J'en reviens. Je reviens du Monte Verita. Et c'est... On a dit du Monte Verita que c'était la plus grande utopie du XXe siècle. Elle a attiré absolument tous les penseurs de tous les pays, les philosophes, les artistes, mais pas un seul Français. Des Anglais, des Américains, des Allemands, des Suisses, des Italiens, pas un seul Français. Je pense que ce n'était pas français du tout.
Donc vous êtes une pionnière de nouveau comme à Bambois.
Oui, oui, oui.
Quelle serait l'ambition suprême d'un texte ?
Oh, l'ambition suprême ? Il n'y a pas possibilité d'arriver à un succès complet, n'est-ce pas ? Pas possible. Par conséquent, tout ce qu'on écrit, ce sont des relations d'échecs. Et on essaye de faire que la relation, la narration d'un échec, n'est-ce pas, soit aussi plaisante que possible. Parce qu'au fond, il s'agit quand même de plaire. Ça, c'est un principe classique, n'est-ce pas ? Il faut plaire. C'est la règle de l'art. L'art est fait pour donner à jouir à l'esprit humain. Voilà.
On va parler un peu de vos admirations littéraires, artistiques, Claudie Hunzinger. Là, on entend Francis Ponge sur France Culture au micro de Jean Dev en 85. Je crois qu'il a beaucoup compté pour vous.
Oui, très tôt. Très tôt, dès les années 70, fin 60 aussi. Oui, La Fabrique du Pré, évidemment. C'est un très très beau volume chez Skira. Et également Le Bois de Pin, les poèmes, Le Savon. Mais en particulier La Fabrique du Pré. Et c'était dans une collection Skira qui avait également publié de Caillois, Roger Caillois, L'écriture des pierres. Donc c'est une sorte de famille littéraire que je m'étais trouvée.
Et Lucrèce alors ?
Et Lucrèce aussi.
Oui.
Bah, Lucrèce, oui, bien sûr.
C'est magnifique.
D'ailleurs, Ponge, j'en ai beaucoup parlé. Oui, Lucrèce, lui aussi, c'est venu très tôt. Je ne sais pas pourquoi, ni où, ni comment. Je suis allée du côté de Lucrèce. Peut-être pas... Enfin, ce qui est en ce moment... Et puis depuis longtemps d'ailleurs, mais toujours encore aujourd'hui, me passionne chez Lucrèce, c'est que pour lui, le langage n'est pas le phallo-logocentré. Voilà, il n'est pas au-delà du monde. Les mots et le monde chez lui ne sont pas séparés. Au contraire, les mots et le monde sont une seule substance. Et que les mêmes atomes nous constituent tous et constituent aussi bien mon ânesse avanie, quand elle broute un pré, que la romancière que je suis quand je lis un livre. Voilà, il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas une entité, le logos, qui est beaucoup plus haut et séparé et qui parfois nous attaque, qui m'attaque encore. Parce que le logos, c'est le langage aussi humain, la raison humaine. Et dans le langage chez Lucrèce, il n'y a pas un logos plus loin, comme il n'y a pas non plus de Dieu terrifiant au dehors. Tout se passe ici, dans une sorte de matérialité enchantée.
Dans les grands cerfs, vous semblez fusionner avec les cerfs. Vous vous sentez en fusion avec le cosmos, la nature, la faune ?
Oui, de même que j'étais infernale dans la maison, autant à l'extérieur de la maison, dans le jardin, puis ensuite plus loin dans les forêts, Je suis en état de total amour.
Il y a un livre que j'ai découvert grâce à vous, Claudie Hunzinger, dans Forêt d'écriture. Ça a l'air absolument merveilleux. C'est de David Garnett. C'est La femme changée en renard et ça date de 1922.
Oui.
Vous pouvez nous en parler ?
Oui. Alors c'est un livre absolument féerique, excitant, érotique, sage en même temps et fou. C'est une jeune femme. C'est une jeune femme dont elle était rousse. Elle avait des taches de rousseur, des couleurs des yeux couleur noisette. Et elle a épousé un gentleman farmer. Et elle avait été marquée enfant par une chasse à cour. Et elle avait été blessée du sang d'un renard. Et 20 ans plus tard, mariée, une chasse à coups repasse auprès du château, et à ce moment-là, elle se change direct en renard. Le titre anglais le dit très bien. Lady into fox. Paf ! Immédiatement. Voilà, elle est devenue un renard. Son mari un peu effrayé, à peine.
On le comprend.
Oui. La recueille et la serre contre lui. Ça, c'est une scène que j'adore. Il la prend contre lui, il arrache sa chemise, il la met au plus serré contre sa peau, une petite renarde contre sa peau, et l'emmène à la maison. Et là, il lui sert du thé. Elle est encore à demi-humaine, pourtant. Dans son mental, elle est humaine. Mais toute son apparence est celle d'un renard. Et c'est une histoire vraiment d'amour extrême entre un homme qui aime sa femme transformée en renard et qui va parfois jusqu'à se mettre à quatre pattes et à japper et à tourner et à oser avec elle les jeux les plus vifs.
Il y a cette phrase magnifique que vous citez, c'est le mari qui dit à sa femme « Bien que vous soyez un renard, j'aime mieux vivre avec vous qu'avec toute autre femme. »
Oui. Oui, voilà, ça c'est le grand amour masculin, c'est bien.
Bah oui, c'est bien. Pour nous les renardes.
Oui.
Il nous reste une minute pour que vous nous parliez d'un auteur que vous aimez. Ça peut être James Joyce, ça peut être Roberto Bolaño, Emily Dickinson, ou quelque chose que vous êtes en train de lire. Ce que vous voulez.
Je suis en train de lire, j'ose le dire, Le banquet de Platon.
Mais vous faites bien d'oser le dire.
Oui, c'est un livre. Je ne pense pas que je l'avais lu en entier. Là, je suis en train de le relire en entier. Et c'est une conversation entre de grands personnages, puisque c'est aussi bien Aristophone que Posassi,
Aristophane,
que Pausanias, que Socrate lui-même, que Alcibiade qui arrive à moitié ivre à la fin du banquet. Et ça, c'est superbe. Ça, c'est aussi un enthousiasme dont j'aurais pu vous parler. C'est la déclaration d'amour d'Alcibiade à Socrate. Et comment Socrate l'a toujours bluffé, refusé tout rapport physique, lui faisant comprendre que les rapports intellectuels, l'amour intellectuel, était indépassable. C'est beau comme tout.
Vous pensez que l'amour intellectuel est indépassable?
Pour moi, c'est le summum, oui.
Oui, puis c'est, oui. On s'en lasse beaucoup moins.
Pardon?
On s'en lasse beaucoup moins.
Oui, mais oui, parce que le désir est toujours là.
Merci beaucoup, Claudie Hunzinger.
Merci, Eva.
Forêt d'écriture, merveilleux livre d'entretien, est paru le 15 octobre dernier aux éditions Artaud. Et vraiment, on est émerveillés à absolument chaque page. Vraiment merci, je suis moi-même sous le charme et envoûtée, ensorcelée par vous. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Louise Morfouas, Alexandra Conné et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Gilles Gaillard.